alors que je n'ai rien fait, que je suis chômeur comme 800 autres de mes camarades, et que la violence sociale, c'est les 12 camarades qui sont décédés depuis la fermeture de notre usine. C'est ça la violence sociale. Et que les vrais bandits, ceux qui ont fermé notre usine, eux s'en foutent plein les poches, ça verse des dividendes et des royalties partout où les multinationales font valoir la misère. Partout, nous devons leur répondre par le tous ensemble et l'unité la plus large possible. Il va falloir que tous ensemble, dans la rue, on renouvelle le plus souvent possible ce genre d'initiative. À Amiens, on est parti le 13 janvier. On a commencé par Marseille et on a fini par Paris. On a fait des dizaines et des dizaines de comités de soutien venant de camarades de la base qui, bien souvent, ont dû souffrir pour pouvoir imposer qu'aujourd'hui à Amiens on puisse se rassembler. Parce que oui, oui aussi, il va falloir qu'on regarde dans nos structures comment on bouscule, comment on change les choses, comment la base reprend ce qui lui appartient. Ouais. Trop, c'est terminé. Nous allons reprendre ce qu'ils nous ont volé. Ouais.
La personne que vous venez d'écouter, c'est le syndicaliste Xavier Mathieu. Il était à Amiens le 19 et 20 octobre dernier pour soutenir, comme des milliers de personnes, les 8 ex-salariés de Goodyear qui faisaient appel pendant ces deux jours à leur condamnation à 24 mois de prison ferme pour avoir séquestré leur patron en 2014. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le nouveau reportage de Micro Rebelle Hebdo. Aujourd'hui, nous vous proposons le deuxième numéro du cycle que nous avons inauguré la semaine dernière autour de la mobilisation des 19 et 20 octobre dernier à Amiens, en soutien aux 8 salariés de Goodyear condamnés à de la prison ferme. Vous aurez l'occasion d'écouter aujourd'hui les paroles d'Arnaud, syndiqué CGT, et du groupe Kropotkin de la Fédération anarchiste, présent sur le village des luttes, pour proposer des livres, un petit stand de livres, dans ce village des luttes, ça ne fait pas de mal. Je vous dis à la semaine prochaine, pour un prochain reportage, le troisième et le dernier autour de ce cycle. Mais juste avant, je vous propose un bref petit rappel des faits. Allez, à la semaine prochaine pour le troisième numéro. En janvier 2014, l'usine Amiens Nord de Goodyear annonce, par la voix de ses patrons, sa prochaine fermeture, mettant sur le carreau des milliers d'emplois. Des syndiqués, des salariés, par énervement, par révolte, pour réagir, pour protester, vont retenir le DRH et le directeur de la production pendant une trentaine d'heures entre le 6 et le 7 janvier 2014. Aux yeux de tous, des médias et des hommes politiques principalement, c'est séquestration et violence en réunion. C'est d'ailleurs pour ces deux faits, séquestration et violence en réunion, que sont condamnés les 8 salariés en janvier 2016 à 24 mois de prison ferme. Nous sommes donc en 2016. Et les salariés, enfin, les ex-salariés plutôt, décident de faire appel. Nous avançons, nous sommes le 19 et le 20 octobre 2016, toujours à Amiens. Pendant ces deux jours, c'est le jugement en délibéré en appel. Que se passe-t-il ? Eh bien, le procureur est amené à revoir son verdict en écoutant les témoignages et des nouveaux témoignages autour de cette affaire. Pendant deux jours, s'est tenu à Amiens, du 19 au 20 octobre, un soutien, un immense soutien, plus de 5000 personnes à Amiens, sur le village des luttes, devant le tribunal, pour demander la relaxe. On saura très vite, dans la nuit du 19 octobre, que la relaxe n'aura pas lieu. Mais le procureur révise légèrement son jugement. Au lieu de 24 mois de prison ferme, on passe maintenant à 24 mois avec sursis. Maigre victoire, petite victoire. Quoi qu'il en soit, Micro Rebelle vous fait partager les avis de plusieurs collectifs et syndiqués qui étaient présents sur le village des luttes pour croire, pour espérer, pour lutter et pour soutenir les camarades qui étaient condamnés à de la prison.
Bonjour Arnaud, Merci de répondre à quelques questions pour Micro Rebelle. Première question, très simple, d'où tu viens?
Je viens de la Champagne, moi, de la Champagne. Et depuis 15 ans maintenant, je suis dans le Maine-et-Loire, du côté de Cholet.
Tu as fait le déplacement aujourd'hui pour soutenir les 8 camarades de Goodyear. Pourquoi tu as fait ce déplacement?
Parce que je trouvais ça pas irresponsable de ne pas venir, mais quasiment obligatoire d'être là, de montrer notre soutien, de montrer que ça peut arriver à tout le monde. Le licenciement, les répressions, tout ça, ça existe de plus en plus. Donc il fallait montrer que même si on ne côtoie pas ces gens qui sont aujourd'hui mis en cause, il faut leur porter notre aide.
Je vois que t'es syndiqué à la CGT. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, auditrices de Micro Rebelle ton engagement syndical, dans quelle branche et depuis combien de temps?
Alors, j'ai 45 ans aujourd'hui, je suis syndiqué depuis seulement 2 ans. Pourquoi si tard, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je trouvais ça primordial de m'engager quelque part. Après, pourquoi CGT, machin? CGT, pour moi, c'est le syndicat qui représente le plus les salariés. Donc, pour moi, c'était obligatoire, si je devais me syndiquer, aller vers cette voie-là. Et je ne regrette pas aujourd'hui, ça fait 2 ans. Et plus je mûris, plus je vois que je prends de la graine. Et donc, voilà, je ne regrette pas.
D'accord, bah merci beaucoup Arnaud. On va passer à Denis. Vous êtes collègue?
On est collègue, on est dans la même usine, effectivement. Ouais. Même si on n'est pas dans le même atelier, on est collègue.
Alors, pour les auditeurs, auditrices de Micro Rebelle, est-ce que tu peux rapidement expliquer l'usine? Qu'est-ce qu'elle fait? Et donc, du coup, dans quelle branche de l'industrie vous êtes?
Alors, on fabrique des pneumatiques, en fait, à Michelin Cholet. On fabrique, en fait, du pneu, en fait, 4x4, en fait, et professionnel, en fait, pour les petites boîtes et tout ça. Donc, on est environ, en fait, maintenant 1295 CDI. Pour la petite histoire, en fait, il y a 20 ans, en fait, on était, en fait, plus de 2500 personnes. Et entre 2000, on va dire entre, on n'arrête pas, en fait, on est de moins en moins, en fait, à travailler plus, en fait, qu'aujourd'hui, en fait, sur le site. Hein. Mais un peu partout, c'est un peu pareil, en fait, partout, en fait, dans l'ensemble. On est un peu partout, en fait, aujourd'hui en France, dans toutes les usines. On est de moins en moins, en fait, à travailler de plus en plus. Alors qu'il y a de plus en plus, en fait, de salariés au chômage. Il y a un chômage de masse. Et c'est aussi un peu ça aussi qu'on vient en fait dénoncer.
Alors. Comme ton collègue Arnaud, pourquoi tu as fait le déplacement aujourd'hui?
Alors pour nous, en fait, c'est essentiel aujourd'hui, en fait, de se déplacer, en fait, à Amiens, en fait, pour les Goodyear. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, pour défendre son emploi, en fait, on peut risquer 9 mois ferme. Risquer 9 mois ferme, en fait, pour défendre simplement le fait de vivre décemment, le fait de vivre, en fait, avec un emploi mal payé, en fait, souvent dangereux. À Cholet, en fait, on a eu des bras arrachés, on a eu, des suicides, on a eu, en fait, on a des conditions, en fait, assez, en fait, déplorables de travail, un peu partout, en fait, et on, même avec ça, en fait, quand on se plaint, en fait, de perdre notre emploi, on pourrait se retrouver avec 9 mois ferme. C'est bien un problème, en fait, politique, un problème, en fait, inacceptable, comme on dit, en fait, de démocratie, en fait, qu'on vient, en fait, défendre aujourd'hui, en fait, à Amiens.
À ton avis, pourquoi il y a une telle montée de la criminalisation du mouvement ouvrier et des personnes syndiquées? Parce que t'es pas la première personne qu'on interviewe et qui nous dit que c'est vraiment nouveau, cette pénalisation assez brutale, où on risque maintenant, quand on défend notre emploi, on risque vraiment de la prison. Comment tu l'expliques?
En fait, c'est pas nouveau. C'est ça qui est terrible. C'est de comprendre, comment dire, que les gens qui se font élire, en fait, par les classes populaires, en fait, qu'on dit, en fait, dans l'histoire, il faut vraiment, comment dire, en fait, se référer à l'histoire. Pendant la guerre d'Algérie, en fait, comment dire, en fait, la SFIO, en fait, l'ancêtre, en fait, du PS, tapait sur, en fait, les Algériens, en fait, le FLN, les mettait, en fait, comment dire, en fait, les tuait, en fait, comme ça, en 83, 84, c'est le PS, en fait, qu'on dit, en fait, et ses alliés, en fait, au ministère, qui, comment dire, en fait, qu'on détruit, je sais pas combien, en fait, d'emplois, en fait, comment dire, dans les mines ou quoi que ce soit, qu'on détruit l'emploi, tout ça. le problème en fait il est là, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui il y a la gauche en fait, comment dire, qui détruit les emplois, qu'en fait qui est aux ordres en fait, comment dire, en fait du patronat, et comment dire, en fait il est toujours là, c'est Hollande en fait, ces gens-là, comment dire, en fait aujourd'hui en fait, comment dire, en fait ils nous ont fait croire qu'ils étaient de gauche. Aujourd'hui on voit clairement au service de quelle classe sociale ils sont. Et c'est ça aujourd'hui, le problème c'est que ça se voit complètement. Aujourd'hui, c'est tellement dur en fait, comment dire, en fait la société est tellement dure, le chômage de masse est tellement important, la misère en fait s'accroît tellement que ça se voit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait les attaques elles se voient, en fait il est temps en fait aussi aux gens d'ouvrir les yeux. Cette gauche là en fait elle est morte en fait, comment dire, en fait c'est des gens qui sont au service du patronat, qui est au service en fait comme Sarkozy, comme les Le Pen et tout ce que tu veux, ils prennent en fait des mesures en fait comme en fait d'extrême droite en fait, on le voit bien, y compris de mettre des syndicalistes qui défendent leur emploi en prison. Bon, il est temps d'en finir. Aujourd'hui, il n'y a qu'une idée révolutionnaire, essayer comment dire, de comprendre que le seul moyen de s'en sortir, c'est prendre en fait comment dire, en fait le contrôle des entreprises et les salariés. Il n'y a que ça qu'en fait qui pourra en fait comment dire, en fait faire la différence.
Alors, merci beaucoup Denis pour tout ça. Alors, je vais pas te retenir plus longtemps. Un dernier mot pour les auditeurs et auditrices de Micro Rebelle.
Bah écoutez, bonne chance pour tout le monde. Et sans se battre, sans se bagarrer, on n'aura rien. Ceux qui se battent pas, en fait, ils ont déjà perdu. Ceux qui se battent, en fait, peuvent perdre. Mais c'est que comme ça qu'on pourra gagner. Voilà.
Merci beaucoup Denis.
Look at the river as it winds down the rise like a tear going down Cheekside Creek to the body of blood, salty golden, holding the life of our own, though we do not look at the river as it winds down the rise like a tear going down Cheekside Creek to the body of blood, salty golden, holding the life of our own, though we do not look at the river as it winds down the rise like a tear going down Cheekside Creek to the body of blood, salty golden, holding the life of our own, though we do not look at the river as it winds down the rise like a tear going.
Vous êtes toujours dans Micro Rebelle Hebdo, vous écoutez Look at the River de Eila Nereo et le reportage va reprendre dans quelques instants.
To the body of blood, salty golden, holding the life of our own, though we do not look.
Alors bonjour Dominique, tu fais partie de l'AFA, donc la Fédération Anarchiste, et tu tiens un stand aujourd'hui au Village des Luttes. Pour toi, c'est important de se mobiliser contre la criminalisation du mouvement ouvrier.
Oui, ben bonjour déjà. Oui, alors effectivement, moi je m'appelle Dominique, je suis militant au groupe Kropotkin de la Fédération Anarchiste, donc en Picardie. Amiens est en Picardie aussi. Bien que bon, maintenant on est tous reliés dans une région beaucoup plus grande qui s'appelle les Hauts-de-France. Bon, en tout cas, bon, là si je suis là, c'est parce que bon, en tant que militant anarchiste, ça me semble important d'être là au moment où les gens qui se battent se réunissent pour apporter leur soutien, notamment à ceux qui sont condamnés. En plus, ici, dans le cas des Goudieurs, à de la prison ferme, ce qui est quand même relativement nouveau dans ce pays, qu'on condamne à de la prison ferme des gens qui ne font que défendre leur emploi. Et donc, ça me semblait évident que les militants anarchistes devaient se mobiliser comme tous les autres militants des autres organisations. Ici, on est pluraliste, hein, il y a beaucoup d'organisations différentes. On se devait d'être là, donc on est là, voilà.
Tu évoques la, cette nouveauté dans le fait de pénaliser au sens pénal les syndiqués et les ouvriers qui se mobilisent pour sauvegarder leur emploi. Comment tu expliquerais cette diabolisation qui mène à cette pénalisation des ouvriers et des syndiqués ?
Bon, moi je pense qu'il faut faire un petit recul historique. C'est-à-dire que toutes les grandes conquêtes sociales, enfin, la sécurité sociale, tout ça, ça a fait l'objet finalement d'un programme élaboré par le Conseil national de la résistance après la Seconde Guerre mondiale et qui a donc instauré la sécurité sociale, etc. Parce que à ce temps-là, le Parti communiste représentait 20% du corps et enfin de comment dire de la des gens qui votaient du corps législatif. En tout cas, c'était un parti fort et les patrons s'étaient complètement déconsidérés en collaborant massivement avec l'adversaire et l'ennemi même. Et du coup, pendant des années et des années, disons que le patronat a été en mal de considération et il a dû rentrer dans sa coquille. Or, depuis quelques décennies, on a un retour du patronat dur, hein, ce sont les générations suivantes qui sont sur le terrain. Et puis comme on a eu des gouvernements qui ont alterné entre la droite et la gauche et que la gauche n'a été que le valet du capitalisme, c'est-à-dire qu'elle s'est montrée incapable d'offrir un programme de gouvernement qui pourrait séduire son électorat de gauche, eh bien on arrive à une période où le patronat est arrogant et où le personnel politique, qu'il soit de droite et de gauche, se montre clairement, sans embâche, sans aucune gêne, au service du patronat, et qui est de plus en plus dur. Quoi. Voilà pourquoi, moi, voilà comment j'analyse la situation. Hein, grosso modo, nous avons un patronat beaucoup plus dur, qui reprend le devant, qui reprend le haut du pavé, et puis en face, on a des syndicats qui ont été démobilisés par les différents gouvernements de gauche qui ont été au pouvoir. Ça fait des décennies qu'on demande aux ouvriers de ne pas en faire d'autres trop pour ne pas gêner les camarades de gauche qui sont au pouvoir. Et du coup, il y a une perte de savoir-faire dans les luttes. Face au patronat, eh bien, on a des organisations syndicales qui sont dans la cogestion, qui ne sont plus des organismes de lutte. Et aujourd'hui, heureusement, grâce à des luttes comme Continental, Goodyear, Et bien, il y a une reprise un petit peu, notamment dans le mouvement syndical, de méthodes qui étaient celles du syndicalisme du début du XXe siècle, hein, l'action directe, les assemblées, la grève, on ne sait pas encore la grève gestionnaire expropriatrice, mais ça avance. Et voilà, donc le patronat sait très bien que s'il y a une radicalisation du mouvement ouvrier ou des salariés en général, eh bien il va falloir qu'ils musclent s'ils veulent continuer à nous museler. Bon, voilà.
On vient de parler justement donc de cette diabolisation, mais d'un point de vue des patrons, d'un point de vue de l'État. Mais il y a aussi, on peut le noter depuis un certain temps, l'opinion publique aussi qui porte en défaveur un peu le syndicalisme, l'image de l'ouvrier syndiqué. Il y a comme une crainte, une méfiance envers les syndiqués. Comment tu l'expliques par rapport à l'opinion publique ?
C'est un petit peu dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les organisations syndicales au niveau national ayant collaboré avec l'État, étant devenues des organes de co-gestion, les ouvriers ont souvent été trahis par les confédérations syndicales. Et du coup, ça leur servait plus à rien, sinon accessoirement comme une assurance pour avoir la promotion dans sa boîte, etc. Mais le syndicalisme n'était plus ce qu'on pouvait espérer et ce qu'il aurait toujours dû être du syndicalisme, c'est-à-dire un outil de lutte au service des salariés en lutte. Alors effectivement, c'est exactement la même chose qui s'opère dans le champ politique. Les hommes politiques dits de gauche ayant trahi les aspirations des gens qui travaillent, Hein, leur intérêt n'étant pas défendu au niveau du gouvernement, il doit y avoir, je crois, un agriculteur et un ouvrier hein, dans les deux chambres représentatives, Sénat et Assemblée nationale. On sait dire la représentation. En gros, ils se sont désintéressés des syndicats, ils se sont désintéressés de la politique politicienne, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus de 50% des Français qui ne votent plus. Hein, c'est-à-dire que, bon, les choses... se feront ailleurs si elles doivent se faire. Et là, en tant qu'anarchiste, ben, je pense qu'effectivement, on a notre mot à dire, puisqu'on est la seule organisation politique qui proposons aux gens de s'organiser selon un modèle où ils ne confieraient pas leur mandat à des gens qui les représenteraient pas. Nous, on est pour le mandat plus que le mandaté. C'est-à-dire que ce qui nous apparaît important, nous, anarchistes, c'est de, s'il faut déléguer des gens, c'est de déléguer sur quelque chose de clairement défini. Hein, les gens mandatés ne seraient que des exécutants. Ils auraient une tâche technique à accomplir. Et c'est plus, du coup, on serait loin de ce qui se passe actuellement, où les élus deviennent en fait des notables au service de leur promotion, quoi. En gros, le problème qu'on rencontre, c'est le pouvoir. Et... toutes les organisations politiques et syndicales sont dans le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils envoient des gens qui vont occuper des postes. Nous, anarchistes, non. C'est pour ça qu'on est aussi pour la lutte anti-électorale. Bon, j'ai dit beaucoup de choses en même temps, donc ça rend peut-être ça un peu confus.
Non, mais c'est très très bien, parce que du coup, tu tires plusieurs ficelles. On n'aura pas le temps de toutes les tirer. Je voudrais juste en tirer une avec toi à propos de la dépolitisation des jeunes. Un argument qu'on entend souvent en ce moment dans le syndicalisme, qui chez les jeunes est en chute libre, on peut le dire, sans vraiment répéter tout ce que tu as dit, comment tu analyses ceci par rapport à ton angle de militant à la FA ?
Moi je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Toutes les générations ont dit que les jeunes... Hein, c'était pas comme eux. Hein, tout le monde a été déçu, tous les adultes sont déçus par les jeunes qui, à leurs yeux, ne feraient pas ce qu'il faut. Or, les jeunes sont très politisés. Hein, sauf qu'ils ne se politisent pas forcément de la façon dont les adultes voudraient qu'ils se politisent. Moi, je pense qu'il suffit de regarder là, aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de jeunes. Hein, peut-être qu'ils ne sont plus dans les syndicats. Mais il faut se poser la question de pourquoi. Et ils ne sont pas attirés par le syndicalisme. Ils ne sont plus dans les partis politiques. Mais par contre, dans les actions, hein, on les voit. Et puis surtout, ils créent partout des petites des squats. Et je pense qu'il y a une créativité de la jeunesse qui nous empêche de dire qu'ils ne sont pas politisés. Ils ne sont pas politisés dans le sens où ils ne sont pas politiciens. Voilà, ils ne veulent peut-être pas faire les mêmes erreurs que nous, on a fait.
Bah écoute, bah merci beaucoup Dominique, bon courage pour ton militantisme et bon courage pour ces deux jours. Oui. Un dernier mot ?
Oui, je voulais rajouter que par exemple les anarchistes, ils sont capables aussi de créativité, que nous, notre groupe par exemple à Lens, on décide d'acheter un local parce que vu la montée du Front National, je pense que locataire n'est pas une garantie suffisante pour pouvoir continuer à défendre nos idées. Donc nous achetons un local sur le haut de Lens. Lens, c'est la ville-préfecture du département de l'Aisne. Et pour ce, on lance une souscription. Donc tous les gens qui pourront nous aider, même par des petites sommes, sont invités à aller sur notre site, Kropotkine 02, et puis recueillir les renseignements pour nous envoyer un petit chèque ou un gros chèque.
Voilà, donc auditeur, auditrice de Micro Rebelle, soutenez l'étale noire. Chers auditrices et auditeurs, le reportage est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié ce deuxième numéro de notre cycle que nous consacrons pendant 3 semaines à la mobilisation qui s'est tenue à Amiens en soutien aux 8 de Goodyear le 19 et 20 octobre dernier. Alors, pour la première interview, je rectifie mon propos que j'ai dit dans l'introduction. Il s'agissait de l'interview d'Arnaud et de son collègue Denis, qui sont tous les deux employés dans la même usine. Voilà, j'avais oublié de citer Denis.
Alors, pendant ce reportage, c'est la voix de la musicienne Eila Nereo avec des morceaux de son album The Code of Flowers qui nous ont accompagnés. Nous avons écouté Look at the River et les petites transitions musicales viennent de l'introduction du morceau Wild Burn. Et je vais vous laisser avec le morceau Ivory Tongue, donc trois compositions que vous pouvez retrouver sur l'album d'Eila Nereo, The Code of Flowers. Vous pouvez aussi écouter le premier numéro de notre cycle sur notre site microrebelle.fr. Vous pouvez l'écouter en podcast, l'emmener partout avec vous ou l'écouter directement en streaming. Et vous pouvez aussi écouter toutes nos émissions, qu'elles soient littéraires ou d'actualité. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour le troisième et dernier numéro de notre cycle consacré à la mobilisation en soutien au beat de Goodyear. Je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Ciao.
Thank you.
shapes alive. Sister Sun, Sister Sun, woven vision. Sister Sun, woven vision. Our hearts will become.